Lecture du chapitre 3, le titre du chapitre, afin que personne ne puisse plus acheter ni vendre. Plus le retour de Jésus approche, plus les événements prédits par la prophétie suivent un schéma caractéristique. Semblable à un graphique en mathématiques, le fil de l'histoire suivra une courbe tantôt croissante, tantôt décroissante. Il connaîtra des pics et des creux dangereux tels les restrictions économiques, les menaces militaires, la confusion des religions, le désespoir des lois du dimanche. Des pics d'occasions favorables, réveil et réforme, la pluie de l'arrière-saison, l'évangile pour le monde entier. Ces dernières années, quelque chose de formidable s'est passé. Petit à petit, ce profil caractéristique s'est dessiné, quelquefois de manière évidente, parfois de manière plus subtile. La menace militaire, si clairement décrite par les apôtres et les prophètes, s'est visiblement confirmée. Elle fait partie intégrante de nos vies, redoutée mais inévitable, dotant l'humanité d'une puissance de feu mondiale comme celle décrite dans Apocalypse. Apocalypse 11. Parallèlement, tout comme la prophétie, Ellen White, une poussée révolutionnaire. C'est ce qu'elle a prédit. Voici ses mots, tendant à impliquer le monde entier, et cela a vu le jour. À notre époque, chaque heure de notre vie est soumise à l'influence de cette double menace. Mais, tandis que la menace militaire s'inscrivait dans le cours de l'histoire, un autre problème s'immisçait de manière subtile et presque imperceptible, aussi silencieux et furtif qu'un brouillard matinal. Il s'agit d'une menace économique et son apparition en douceur est trompeuse, porteuse de dangers potentiels, d'une instabilité planétaire pire encore qu'un conflit armé mondial. Il s'agit de la crise dont parle Apocalypse 13. Il nous faut ouvrir une parenthèse et rappeler ici que ce livret fut écrit en 1986. Nous sommes en 2012 avec ce que nous savons de l'actualité mondiale sur le plan économique et les finances. Fermez la parenthèse. Lecture dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17. Et il fait que tous, riches et pauvres, petits et grands, libres ou esclaves, reçoivent une marque, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf ceux qui possèdent la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Pendant des générations, les adventistes ont cru qu'une telle chose allait arriver, qu'à la fin des temps l'humanité allait subir cette catastrophe, une mainmise généralisée, par laquelle une puissance centrale tentera d'intervenir dans la vie de chaque être humain. Même les plus riches seront contraints d'y obéir, signe que la crise sera si profonde que la richesse ne sera d'aucun secours. Et le levier de cette étape sera l'intérêt économique mondial. Année après année, nous avons attendu avec impatience cet événement, accueillant chaque crise économique comme un signe infaillible de la fin des temps. Pendant cette attente, un mécanisme émotionnel subtil s'est mis en place au sein du mouvement adventiste. Nous avons d'abord pensé qu'il était impossible de nous maintenir en état de veille permanent. Pendant un certain temps, le fait d'avoir un défi à relever peut entretenir un niveau de stimulation élevé qui se traduit en actes. Mais lorsque l'issue tarde à venir, cette stimulation faiblit et nous nous retrouvons à l'état de simples humains. Avec sagesse et intelligence, nous parlons de la fin des temps, mais nous tombons peu à peu dans un état de dépendance vis-à-vis de ce monde dont nous professons nous éloigner. En d'autres termes, ce que nous devons faire n'est pas rester en permanence attentif aux crises qui surviennent, mais rester à chaque instant en communion avec Christ. Il n'est pas surprenant alors, voyant les années défiler sans que Christ revienne, que certains adventistes se soient posé la question de savoir si leur compréhension de Apocalypse 13 était tout à fait correcte. Et là, double ironie, tandis que nous attendions et nous posions des questions, la chose même que nous redoutions ces subrepticement installés dans nos vies de tous les jours sans que la plupart d'entre nous s'en aperçoivent. En résumé, tous les éléments nécessaires à la mise en place d'un scénario classique d'Apocalypse 13 sont déjà en place, en attente d'un événement qui donnera le feu vert à sa mise en marche. Et tout ceci s'est déroulé au cours des 10 dernières années. Je vais entrer dans le détail sur la manière dont cela s'est passé. Pas spécialement parce que nous sommes sur le point de voir arriver la crise annoncée dans Apocalypse 13, mais pour vous montrer, pour vous démontrer comment toute une série d'événements, apparemment sans lien les uns avec les autres, peuvent se combiner entre eux pour créer une situation grâce à laquelle la prophétie pourrait s'accomplir très rapidement. Revenons plusieurs années en arrière. Nous sommes en été 1973. Les troupes américaines ont quitté le Vietnam. À l'exception de l'incident du Watergate, les choses sont revenues à la normale. Et à la pompe, on peut se fournir en essence à 25 centimes d'euros le litre. À l'époque, les gens ne s'en rendent pas compte, mais le prix du carburant est l'un des éléments les plus importants de leur vie. Si le coût de l'énergie s'effondre, la voie est ouverte pour tout un ensemble de problèmes économiques. Les taux d'intérêt s'envoleront et l'inflation également. Les Américains apprendront d'étranges termes comme stagflation. La récession privera de grands groupes de bénéfices économiques durement gagnés. Les choses ne seront plus du tout tout à fait comme elles étaient autrefois. Mais au cours de cet été 1973, les pronostiqueurs de catastrophes ne sont pas particulièrement crédibles, car on peut faire le plein d'essence pour 3,50 € et les panneaux de vitesse limite sur de nombreuses grandes routes indiquent 115 km/h. C'est l'été, la vie est belle. Puis vint l'automne. Nous étions à la veille du Yom Kippour 1973. Des unités égyptiennes embarquaient à bord d'avions de ligne privée et se dirigeaient vers l'est, vers les lignes de défense israéliennes, au-delà du canal de Suez. Le Moyen-Orient était en guerre et les conséquences de ce conflit se faisaient sentir au cœur même de la vie des Américains. Irrités par le soutien des pays occidentaux pour Israël, les nations arabes firent quelque chose que les départements d'État étrangers envisageaient comme un cauchemar. Elles bloquèrent les approvisionnements en pétrole vers l'Occident. Aux USA, les voitures faisaient de longues files d'attente pour obtenir de maigres approvisionnements en essence, dont le prix devenait de plus en plus élevé. Non identifié comme tel, un événement venait de se produire, capable de mettre en scène la réalisation du scénario d'Apocalypse 13. Comme le prix du carburant s'envolait bien au-delà de son coût de production, un petit nombre de nations se retrouvèrent inondées d'un afflux de revenus, des sommes difficiles à imaginer. En une seule semaine, les nations de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, engrangèrent assez de devises pour devenir capables de racheter tous les grands journaux et radios américains. En seulement 30 semaines, ces mêmes nations gagnèrent l'équivalent de l'ensemble de tous les marchés boursiers de la Bourse de Londres. Immédiatement, elles se retrouvèrent face à ce problème. Que faire d'une telle quantité de devises? La réponse qu'elles choisirent d'adopter est assez logique. Déposer le surplus de ces sommes dans les grandes banques mondiales, des géants multinationaux capables d'effectuer d'énormes prêts générateurs d'intérêts très substantiel. Ce plan présentait un avantage. Les industries dont le fonctionnement dépendait des hausses du prix de l'énergie pourraient emprunter beaucoup d'argent pour s'adapter au nouveau coût du pétrole. Dans l'ensemble, le plan n'était pas si mauvais. Il aurait pu fonctionner, sauf que l'économie, plombée par l'envolée du coût de l'énergie, plongée dans la plus forte récession connue depuis les années 30. En conséquence, il ne se trouvait plus assez d'emprunteurs pour l'argent que les pays de l'OPEP déposaient. Au lieu de cela, des milliers de travailleurs étaient mis au chômage. aggravant la récession par la baisse de leur pouvoir d'achat. Ainsi, le monde plongea dans une époque étrange de troubles économiques, une récession irrépressible, la colère des syndicats autrefois puissants, un déficit fédéral avoisinant les 200 milliards de dollars, 140 milliards d'euros, et des gens inquiets pour la sécurité de leur retraite et de leur épargne. Le fardeau de la prospérité était passé des épaules des producteurs de pétrole à celle des banques. Et rapidement, cette prospérité se révéla porteuse d'une étrange malédiction. En Arabie Saoudite, elle avait attiré des problèmes comme un aimant attire à lui des épingles. Des menaces sur le modèle de société islamique. Des menaces de la part des ouvriers itinérants qui travaillaient dur sous une température de 50 degrés. En se demandant pourquoi la richesse fabuleuse du gisement pétrolier de Gawar était sous le contrôle exclusif de la famille royale. Menace depuis l'Éthiopie et le sud Yémen, où de mystérieuses et sombres forces révolutionnaires œuvraient dans l'ombre, portées par des conseillers barbus qui parlaient avec un accent cubain. Des menaces venues de l'Occident, où des organisateurs militaires étalaient leurs cartes en se demandant si les gisements de pétrole ne pourraient pas tout aussi bien se retrouver sous le contrôle des marines. Et des menaces venues de l'Union soviétique, dont l'intérêt pour ces régions se révéla par une intrusion qui passa le stade de simple projet sur plan et se concrétisa par une installation en Afghanistan. Et tout ceci simplement à cause de l'augmentation du prix du pétrole. Le pétrole était devenu de l'or, et cet or commençait à sentir mauvais, comme si quelque chose de délétère était en train de bouillir sous le couvercle de la marmite. Alors la responsabilité encombrante de toute cette richesse passa dans les mains des banques multinationales qui allaient apprendre, à leur tour, combien de telles sommes d'argent étaient difficiles à gérer. Le problème des banquiers était sérieux. Ils étaient dépositaires d'importantes fortunes arabes pour lesquelles ils reversaient des intérêts. Mais il y avait trop peu d'emprunteurs pour assurer leurs revenus. Une solution s'imposa d'elle-même. Si les affaires privées ne pouvaient pas utiliser les fonds disponibles, pourquoi ne pas les proposer au gouvernement, voire aux nations entières, aux nations souveraines? Pourquoi pas à la Pologne, au Brésil, à l'Argentine et au Mexique? Rien ne pourrait être plus sûr que de prêter à des nations souveraines, n'est-ce pas? Mais avant qu'on s'en rende vraiment compte, trois nations occidentales à elles seules se retrouvèrent redevables de sommes aussi importantes que celles détenues par les actionnaires des 9 plus grandes banques américaines. Puis tout s'effondra, la récession mondiale frappa de nouveau, les taux d'intérêt s'envolèrent, des nations entières endettées au maximum ne purent même plus faire face au remboursement des intérêts de leur emprunt. Il ne s'agissait plus d'un lointain problème dont on entendait vaguement parler en buvant tranquillement un café à 70 centimes d'euros au quatrième étage. L'Amérique pouvait être touchée. Plusieurs centaines de milliards de dollars avaient disparu, comme un vol d'oiseaux migrateurs, dans les jungles enfumées et poussiéreuses de pays pour le moins en banqueroute. Il fallait au moins un miracle pour les voir revenir. Et s'ils ne revenaient pas, quelques-unes des plus grandes banques mondiales étaient susceptibles de faire face à des pertes qu'elles ne pourraient couvrir. Et tout ceci amena les communautés bancaires à jouer au jeu du « que se passerait-il si ?»« Que se passerait-il si une grande nation endettée venait à s'effondrer ?» Pire encore, « que se passerait-il si toutes les nations pauvres s'unissaient et décidaient ensemble de dénoncer leurs dettes ?» Jusque-là, les banquiers avaient joué un jeu délicat, imaginant que leurs prêts pouvaient encore être récupérés. À l'occasion, quand les intérêts arrivaient à échéance, elles effectuaient d'autres prêts, permettant ainsi à leurs créanciers de payer leurs intérêts en augmentant encore leurs dettes. Mais si, en fin de compte, un pays décidait de jeter l'éponge en dénonçant sa dette, le jeu prendrait fin. Dans les cahiers de comptes informatisés des banques prêteuses, une dette dénoncée passe de la rubrique non performante à irrécupérable. Il s'agit alors d'une perte véritable et cette perte doit être reconnue. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un simple emprunt de 33 000 euros avec une première hypothèque concernant l'achat d'une maison. Il s'agit d'un nombre à 10 chiffres et la banque ne possède peut-être pas assez de liquidités pour couvrir la somme. Si l'idée se propage à d'autres nations débitrices, si l'effet domino s'installe, il pourrait bien ne pas y avoir assez de fonds dans le système monétaire tout entier pour couvrir la perte. On se retrouve devant une catastrophe économique internationale apocalyptique, ce qui veut dire panique dans les bourses mondiales, des files d'attente de plusieurs dizaines de mètres de long devant les établissements bancaires, des équipes en 3-8 pour les ateliers d'impression de la Réserve fédérale et la chute vertigineuse du Dow Jones, puis l'interruption catastrophique de l'activité économique mondiale. C'est le scénario d'Apocalypse 13 en action, conduisant les USA tout droit vers une domination économique mondiale. Je vais vous expliquer comment. Tout récemment, j'étais en voyage vers Moscou pour affaires. À Amsterdam, j'ai acheté un journal qui a d'un seul coup fait passer mon malaise dû au décalage horaire. Sur la première page se trouvait un article relatant une récente réunion ayant eu lieu entre les grandes nations débitrices de la zone occidentale au cours de laquelle elles avaient discuté la manière de faire face à la crise internationale. À la lecture de cet article, une chose m'a paru à l'évidence. Elles avaient l'intention de faire front commun pour négocier leurs dettes. Un jour, en Russie, j'ai pris part à une rencontre où se trouvait le responsable d'un grand magazine financier américain et je lui ai demandé son avis sur la question. Voilà ce qu'il me dit. Voilà le genre d'événement que nous redoutons. Si ces nations font front commun, on aura affaire à l'histoire de l'OPEP à l'envers, un cartel des pays endettés où les débiteurs imposent leurs lois aux prêteurs. Si le pire arrive, s'ils se mettent à agir tous ensemble, nous serons devant la plus grande crise économique depuis les années 30. Lorsque nous considérons tout ceci à la lumière d'Apocalypse 13, nous constatons que la prophétie pourrait très bien se réaliser. Étrangement, une crise financière majeure pourrait propulser les États-Unis dans une position prédominante au niveau économique pour une seule raison. Seuls les États-Unis peuvent imprimer des dollars. Si le pire vient à se produire et si les prêteurs ne parviennent pas à couvrir leurs pertes, l'économie mondiale réagira probablement à la manière d'un corps vivant face à une grosse hémorragie. Le dollar est la monnaie de référence du commerce international et des centaines de millions de dollars auront disparu dans de mauvaises récoltes et des jets privés et des centrales nucléaires à moitié construites du tiers-monde. Seule une perfusion immédiate de dollars pourrait redonner vie à l'organisme du commerce mondial. Et une seule organisation au monde, la Réserve fédérale américaine, pourrait donner le feu vert à la création de nouvelles monnaies dollars. En conséquence, les stratèges financiers ont imaginé un plan. Dans le pire cas de figure, l'Amérique créerait assez de monnaie pour couvrir ses pertes. Elle prêterait aux banques mondiales en faillite pour qu'elles puissent reprendre leur activité. Pour le dire en d'autres termes, l'Amérique deviendrait le prêteur de dernier recours pour le monde entier. Elle détiendrait les créances pour l'ensemble du commerce international. Elle pourrait alors dicter sa politique à un niveau jamais vu dans l'histoire. Lecture de Apocalypse 13, 16 et 17. Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. La prophétie de Jean n'a plus besoin d'être reléguée vers un avenir lointain. La machine est déjà en place. Nous avons déjà perdu le contrôle de notre économie à un stade inimaginable. Un événement apparemment insignifiant pourrait précipiter le scénario a prédit l'apôtre Jean. Maintenant, soyons prudents, et ce que je vais écrire sera en italique afin d'insister sur mon propos. Je lève la voix pour lire ce qui est en italique. Tout ceci ne veut pas dire que l'histoire se déroulera selon le script que je viens d'évoquer. En effet, les choses seront probablement beaucoup plus complexes que tout ce qu'on peut imaginer. Ceux qui tentent de dire de quelle manière se réalisera la prophétie s'engagent dans des propos spéculatifs risqués, et ceci pour au moins deux bonnes raisons. La première, c'est que nous n'avons même pas idée de ce que sera l'intervention divine pour empêcher des crises qui, pour nous, paraissent inéluctables. Et Dieu modifie souvent les événements afin d'accorder le cadeau de temps supplémentaire aux gens. La seconde concerne la réaction ou le manque de réaction du peuple de Dieu. Par deux fois, au moins, dans l'histoire de l'adventisme, un schéma fin des temps facilement reconnaissable s'est amorcé. Dans les années 1850, puis de nouveau à la fin du XIXe siècle, des événements se sont passés montrant que Jésus voulait revenir. Dans les années 1890, Ellen White a déclaré que la pluie de l'arrière-saison devait commencer. Les lois du dimanche étaient largement proposées en Amérique et le message de santé adventiste attirait de plus en plus l'attention, même celle de personnages célèbres tels que Henry Ford et Harvey Firestone. Mais une apostasie tragique appelée Alpha eut lieu au sein de l'Église, réduisant à néant l'occasion de terminer l'œuvre finale. L'occasion fut perdue et le cauchemar du XXe siècle se profilait à l'horizon. Et nous sommes toujours là. Donc, la crise économique actuelle peut signifier beaucoup de choses ou rien du tout. Ce que vous venez de lire n'est pas une tentative d'explication de l'avenir. Il s'agit simplement d'une illustration parmi tant d'autres montrant comment un millier d'événements relatés aux journaux du soir, en apparence sans relation les uns avec les autres, peuvent interférer pour créer ensemble un schéma de fin des temps tel que les adventistes le conçoivent. Si vous ne plongez pas vos cœurs et votre intelligence au plus profond des écrits bibliques et de l'esprit de prophétie, vous pouvez très bien ne pas discerner ces événements avant le dernier moment. Si l'étude de ces 10 événements décrits par l'esprit de prophétie vous intéresse vraiment, l'ouvrage Maranatha est l'un des meilleurs que vous puissiez vous procurer. Nous devrions le lire et le relire jusqu'à ce qu'il soit complètement usé. Ensuite, en racheter un exemplaire et le lire encore. L'avenir nous surprendra, mais nous pouvons au moins affirmer une chose. Les signes précurseurs seront clairs. Si nous ne pouvons pas les voir, nos amis banquiers, eux, le peuvent. En même temps, deux autres éléments de la prophétie de Jean doivent attirer notre attention. L'un d'entre eux est que les gouvernements dicteront la conduite à tenir à tous les citoyens de la planète exerçant leur contrôle sur des choses aussi élémentaires que les achats et les ventes. Le second est que les gouvernements légiféreront sur les affaires religieuses. De la même manière que pour la crise économique, ces deux facteurs se sont immiscés dans notre vie petit à petit. Des pouvoirs capables de les mettre à exécution sont déjà en place, sous la forme des banques électroniques et un droit religieux fortement politisé. Ce paragraphe étant assez long, nous faisons une coupure et reprendrons sa lecture dans un autre enregistrement.